Bienvenue à tous dans ce premier numéro d'Alter Echo, une émission flambant neuve qui tentera chaque semaine de porter un regard différent et surtout très critique sur l'actualité et les médias. Au micro, Olivier, et à la technique, c'est Pete. Dans cette émission qui s'appelle donc Alter Echo, nous décoderons ensemble les événements de la semaine et nous essayerons de vérifier si les médias traditionnels ou dominants, appelez-les comme vous voulez, ont bien capté ce qu'ils racontent. Les médias en question ont une fâcheuse tendance, comme vous vous en êtes peut-être aperçu, à faire leur boulot un peu n'importe comment, avec complaisance, désinvolture, voire incompétence. Notre mission toutes les semaines, ce sera donc de critiquer leur boulot, en bien ou en mal, de leur demander des comptes quand c'est possible, et puis aussi de fournir certaines informations qu'ils ne donnent pas eux, parce que ça ne les intéresse pas ou que ce n'est pas assez neutre. Bref, Alter Echo, c'est l'émission qu'attendaient tous les consommateurs frustrés des médias et autres assoiffés d'infos rigoureuses. Elle sera diffusée tous les mercredis à 22h sur cette antenne et rediffusée tous les vendredis à 14h. Vous pourrez aussi la retrouver sur internet à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un mot, où vous trouverez un lien pour écouter le tout en real audio, avec au passage mes remerciements au site Protesta, qui héberge d'ailleurs plusieurs émissions radio sur internet. Vous trouverez également sur le site Alter Echo la playlist de chaque émission, c'est-à-dire la musique que vous entendrez. Je ne dirai pas à chaque fois quel est le morceau qu'on entend, donc si un morceau vous plaît, c'est sur le site qu'il faut aller voir.
Sing along.
Une première émission, ça se soigne et Alter Echo ne recule devant aucun sacrifice pour choyer ses auditeurs. Donc, je me suis désigné la semaine dernière comme envoyé spécial sur l'événement majeur. J'ai nommé l'automne de Prague. Pour ceux qui étaient déjà en train d'hiberner, je rappelle que la semaine dernière à Prague, le Fonds monétaire international, FMI pour les intimes, et la Banque mondiale ont tenu leur congrès annuel et que le dit congrès a dû essuyer beaucoup de protestations, contestations et manifestations de la part d'une bande de va-nu-pieds venus d'Europe, de l'Europe entière et même d'au-delà. Le but pour aujourd'hui est de regarder l'événement d'un peu plus près et même de beaucoup plus près que les médias qui étaient censés vous le relater. D'abord, en bref, le FMI et la Banque mondiale, c'est quoi ? Ce sont des institutions jumelles qui sont nées sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. On ne va pas épiloguer, mais en gros, le FMI est une banque qui prête aux États qui ont besoin d'argent à la condition que ces États respectent certaines conditions, justement. On pense tout de suite aux fameux ajustements structurels qui ont été récemment rebaptisés à cause de leur mauvaise réputation. Les ajustements structurels, c'était ça. Tu as besoin d'argent pour ne pas mourir, moi je nage dedans, je veux bien t'en donner un petit peu à condition que tu fasses ce que je te dis. Et c'est ainsi que les pays industrialisés imposent aux pays du tiers-monde des recettes néolibérales du genre « il faut privatiser tel ou tel service public, cultiver plutôt ceci que cela, etc. etc. » Pas que ces recettes soient adaptées au problème, mais elles ont le grand avantage de faire le bonheur des investisseurs étrangers, autrement dit des pays industrialisés. Bon, et si je refuse, ah ben dans ce cas, pas de sous, et il faut encore rembourser le crédit de la dernière fois. En bref, il ne reste plus qu'à accepter, quel que soit le prix à payer. La Banque mondiale, c'est pas très différent. Elle a pour vocation de financer des projets de développement. Évidemment, elle a un droit de regard sur ce qu'elle finance, donc elle ne finance que des projets qui cadrent dans l'optique des pays où elle prend son argent, en gros, les pays industrialisés. Un peu le genre de coopération au développement à scandale, pratiqué longtemps en Belgique par l'AGCD, si vous voyez ce que je veux dire. Tu reçois de l'argent pour un projet, mais ton projet doit être réalisé par une boîte belge, sinon pas de sous. La Banque mondiale, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est en gros le même esprit. Bref, ce sont donc deux institutions qui, sous prétexte de fabriquer un monde meilleur, sont plutôt en train d'en saccager une partie, de saigner les plus pauvres et de creuser les inégalités. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais depuis un an ou deux, les gens commencent à en avoir marre et ils se mettent à manifester leur mécontentement vis-à-vis de toute cette hypocrisie. Il y a d'abord eu Seattle, où les manifestants ont saboté le sommet de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, une autre organisation du même acabit. Et puis, il y a eu le même topo à Washington. On a vu aussi les foules soutenir José Bové à Millau, où on le poursuivait pour avoir symboliquement démonté un McDonald's pour protester contre la marchandisation du monde. La dernière étape en date, c'était donc Prague, la semaine dernière. À Prague, il y a eu toute une série de manifestations et toutes sortes de manifestants. Ça allait de divers mouvements religieux aux groupements d'extrême gauche, en passant par des formations politiques et des mouvements anarchistes. Les revendications, elles aussi, étaient très variées. Certains demandent l'annulation pure et simple de la dette, d'autres une réforme profonde de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et d'autres encore la disparition pure et simple de ces institutions. Évidemment, vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu des violences entre la police et les manifestants, mais sans doute, et c'est bien là le problème, vous n'avez entendu parler que de ces violences, alors qu'il y avait tant d'autres choses à dire. Les manifestants n'étaient effectivement pas tous des enfants de cœur, et certains avaient un look, disons, pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Du coup, quand les médias se retrouvent devant une situation de ce genre, c'est de ça qu'ils parlent, parce qu'ils regardent rarement plus loin que le bout de leur nez. On a donc beaucoup entendu parler de violences et d'anarchistes et très peu de revendications concrètes. Et on n'a pas vu du tout d'analyse en profondeur du FMI et de la Banque mondiale, ni des résultats de leur action. Pour pallier à ces manques, voici pour commencer une interview d'Éric Toussaint, le président du CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Pour une fois qu'il a eu l'occasion d'exposer ses points de vue en plus de 30 secondes ou de 2 minutes, vous pensez bien qu'il en a profité. Permettez-moi de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Quand on a des dettes, on les paye, non?
Ça me paraît tellement banal comme réponse. Les pays du tiers-monde la payent. Et comme les gens surendettés en Belgique ou dans les pays du Nord, ils payent des quantités absolument considérables parce qu'ils ont des usuriers sur le dos qui leur font des prêts de manière à ce qu'ils puissent tenir leur engagement antérieur pour ne pas que le huissier passe vider la baraque, et donc ils remboursent des sommes absolument considérables. Le tiers-monde a remboursé 6 fois le montant de ce qu'il devait en 82, il a remboursé 6 fois 100 de 82 et aujourd'hui. Et il est 4 fois plus endetté qu'en 82, c'est-à-dire que pour pouvoir effectuer les remboursements, ils contractent de nouveaux emprunts, mais avec des primes de risque qui font que les taux d'intérêt sont de l'ordre de 9 à 15%, ça dépend des pays, alors qu'un pays comme la Belgique ou la France, quand il émet des titres de sa dette publique, il paye ses titres, il rémunère ses titres à du 5-6%. Et donc, moi je suis pour effectivement l'annulation de la dette. Le tiers-monde a remboursé déjà plusieurs fois, c'est assez. Il faudrait que l'argent qui est remboursé puisse être utilisé par les pays du tiers-monde pour satisfaire les besoins humains fondamentaux en matière de santé, d'éducation, d'investissement pour créer de l'emploi, etc. Alors vous me direz, oui, mais enfin, on ne va pas faire des cadeaux aux dictateurs, c'est pas ça que vous allez me dire, peut-être. Eh bien, nous sommes de manière complémentaire pour l'expropriation des avoirs détenus dans les pays du Nord par les régimes dictatoriaux ou les riches du Sud qui ont mis en sécurité dans les pays du Nord l'argent qu'ils ont volé sur le dos des populations locales ou l'argent qu'ils ont détourné et qui provenait des prêts des pays du Nord. Il y a énormément d'argent qui a été planqué par Mobutu, par Suharto, par Marcos dans les pays du Nord. Les banques et les institutions financières du Nord sont parfaitement complices. Et donc nous sommes pour qu'il y ait des enquêtes menées jusqu'au bout, pour faire la clarté sur ces complicités. Au bout d'une enquête menée en bonne et due forme, nous sommes pour l'expropriation de ces avoirs s'ils ont été acquis de manière illicite et leur rétrocession aux pays du Sud pour que ça entre dans des fonds nationaux de développement contrôlés par les mouvements sociaux du Sud. Évidemment, pas simplement à l'usage discrétionnaire des régimes du Sud.
Apparemment, les institutions internationales sont quand même vaguement sensibles ou en tout cas font semblant de l'être à vos arguments, puisqu'on parle de plus en plus quand même de propositions qui vont plus ou moins loin de réduction de la dette. Quelles sont ces propositions et pourquoi est-ce qu'elles ne vous satisfont pas?
Les propositions consistent à, en échange de réduction tout à fait marginale, de l'ordre de 10 à 20% de réduction, en échange de ça, les institutions comme la Banque mondiale, le FMI et le G7 exigent des pays du Sud ou des pays de l'Est qu'ils continuent la politique de privatisation, qu'ils continuent les réductions de dépenses de santé et d'éducation, qu'ils ouvrent encore plus leur économie pour que les entreprises multinationales des pays les plus industrialisés puissent conquérir les marchés ici. Ils exigent des changements de législation en matière d'agriculture, d'abandon de subsides aux agriculteurs des pays concernés. Ils exigent la suppression de subventions aux produits et aux services de première nécessité, ce qu'on appelle en bref l'ajustement structurel et qui a des effets désastreux. Alors c'est un marché de dupes pour les populations parce que ça veut dire plus d'austérité en échange d'un tout petit peu moins de dettes. Or il faut tourner le dos complètement à ce genre de politique. Il faut refuser la continuation de l'ajustement structurel, même si on l'a renommé cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, on a fait un changement de terminologie sans rien changer au fond des politiques que je viens de décrire. Et il faut utiliser les sommes qui étaient destinées au remboursement de la dette à satisfaire les besoins humains fondamentaux. Voilà ce que nous proposons. Alors pourquoi la Banque mondiale et le FMI font ça? Parce que elles n'ont jamais été dans une crise de légitimité comme aujourd'hui. La crédibilité de la Banque mondiale et du FMI est au plus bas depuis leur création. Et donc il faut bien qu'ils fassent quelques concessions à l'opinion publique, sans aucune concession sur le fond.
Il est bien évident que dans cette émission, nous observons un rigoureux devoir d'objectivité et que nous donnons donc la parole à toutes les parties. Ça tombe bien puisque j'ai eu l'occasion d'interviewer un ponte de la Banque mondiale, Luis Dodero, Monsieur Dodero est espagnol et il est le vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, l'AMGI, une des agences de la Banque mondiale. Cette agence assure le risque couru par les investisseurs étrangers lorsqu'ils investissent dans les pays en voie de développement. Bref, une activité bien dans la ligne de l'œuvre civilisatrice de la Banque mondiale. Ce pauvre monsieur Dodero s'est donc retrouvé à Prague, bloqué dans sa limousine. Il se rendait gentiment à une petite sauterie à l'ambassade d'Espagne, juste au moment où une horde de manifestants espagnols s'était mis dans la tête d'aller exprimer son mécontentement devant la porte de ladite ambassade. Que tout le monde se rassure, il est arrivé sain et sauf au buffet, mais son petit retard nous a laissé juste le temps de lui poser quelques questions.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là.
À votre avis, vous n'avez pas une petite idée comme ça? Vous êtes au courant qu'il y a un contre-sommet, beaucoup de manifestations?
Oui, il y a beaucoup de manifestations contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Mais...
Vous pensez que c'est contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire ou contre les politiques qui mènent?
Je ne sais, je crois pas que c'est contre l'Espagne.
Non, certainement pas, mais disons que c'est une délégation de manifestations espagnoles qui manifeste chez eux, disons, et donc devant l'ambassade espagnole.
Je ne crois pas, non, non.
Si,
non.
Si, ce sont des Espagnols.
Ce sont des Espagnols?
Ce sont tous des Espagnols.
Oh, mon... Tous des Espagnols? Il y a beaucoup aussi.
Oui, il y a beaucoup, ils ont fait le voyage. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils manifestent? Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est juste pour crier ou bien ils ont des raisons?
Non, je crois qu'ils demandent, ils se manifestent contre la dette et contre le Fonds monétaire.
Et pour quelles raisons?
Ben, je ne sais pas, mais je ne suis pas d'accord, naturellement, parce que je travaille à la Banque mondiale.
Oui, bien entendu.
D'accord. Oui, je ne suis pas d'accord.
Mais est-ce que vous avez pris la peine d'écouter ce qu'ils avaient à dire et de...
Oui. Oh oui, naturellement. Oui, oui, à Washington. J'écoute tous les jours ce qu'ils disent. Mais c'est le problème, c'est pas vrai. Il dit que nous ne luttons pas contre la pauvreté. Pauvreté?
Oui.
Dans le monde et tout ça, nous faisons beaucoup pour la pauvreté. On peut faire plus, naturellement.
Et pourquoi on ne fait pas plus si on peut le faire?
Parce que les pays riches ne donnent pas d'argent.
Ah,
les... Ils ont beaucoup de limitations à la banque. Beaucoup de limitations.
Quelles sont ces limitations?
D'argent. Nous n'avons pas d'argent.
Et le monde
riche, par exemple, les États-Unis ne veulent pas donner plus d'argent pour la fenêtre, on dit la guillette, la fenêtre qui donne des prêts avec des intérêts très bas ou sans intérêt. Nous donnons cet argent, mais nous avons besoin de l'argent pour donner ses prêts. Et les États-Unis ne donnent pas l'argent, et il y a beaucoup de pays riches, les G7, qui ne donnent pas d'argent.
Au lieu de prêter de l'argent, il faudrait peut-être pas commencer à pomper de l'argent sans attendre de contrepartie d'une part d'argent et d'autre part laisser un peu les politiques sur place se développer selon les spécificités locales plutôt que d'imposer une recette globalisée qui est censée faire avancer les pays du monde entier mais sans faire attention aux spécificités de chaque pays.
Oui, non. Un autre problème, c'est que le gouvernement des pays en développement se sent corrupt. Ils sont corrupts et il y a beaucoup de corruption.
D'où vient cette corruption, à votre avis?
De pays riches, de pays pauvres. Aux pays pauvres, parce qu'ils peuvent ils mettent l'argent aux pays riches.
Vous faites de très beaux lapsus.
Oui, je connais beaucoup de pays très corrupts.
Est-ce que vous pensez vraiment que, notamment le FMI et la Banque mondiale, mais les pays occidentaux en général, font tout pour lutter contre cette corruption ou non, est-ce que
non.
Quelque part...
Ah, non, il ne fait rien. Mais la Banque mondiale, nous avons un programme très fort contre la corruption. Nous ne donnons pas de prêts si nous voyons que le pays est corrupt. Pas de prêts.
Il y a pourtant des pays pas tout à fait net qui obtiennent des prêts, non?
Naturellement, parce que nous ne sommes pas parfaits. Il y a toujours des erreurs. Mais nous avons un programme très très strict de ne donner pas d'argent aux pays corrupts. Mais par exemple, si un gouvernement ou un pays où le gouvernement est corrompu a besoin des écoles, a besoin de la population doit manger, on étudie ça, naturellement, mais l'argent ne veut pas au gouvernement. C'est très important.
Donc vous faites des prêts directs à la population?
Non, nous travaillons ensemble avec les organisations non gouvernementales
Alors pourquoi ces organisations non gouvernementales viennent massivement manifester au sommet?
Ils ne sont pas ici, ils ne sont tous ici.
Pour moi, une grande organisation mondiale qui lutte contre la pauvreté, c'est Oxfam par exemple. Oxfam est aux premières loges de la protestation.
Oxfam est aussi à Washington et nous avons des discussions avec Oxfam à Washington. Et il dit que nous faisons beaucoup, mais il veut que la banque ne fasse plus. Et naturellement, il y a des différences, mais oui, c'est normal, c'est normal. Je suis d'accord avec beaucoup de ces gens.
Mais si Oxfam, par exemple, pour prendre un exemple, était satisfait du niveau de discussion mené avec...
Ils ne sont pas ici, oui. Ils ne sont pas satisfaits.
Ah, je suis venu avec une délégation d'Oxfam Belgique.
Oui. Oui, naturellement, je suis d'accord avec Oxfam. Je donne d'argent à Greenpeace. Je suis d'accord avec beaucoup de cette organisation. Je crois que cette organisation est nécessaire parce que sans cette organisation, les banques ne seront pas contrôlées. Et naturellement, il y a beaucoup d'intérêts qui ne sont pas corrects. Mais je crois qu'il y a des différences. Et je suis d'accord avec les démonstrations, les manifestations.
Eh ben, venez manifester avec nous.
Je peux pas.
Qui vous en empêche?
J'ai fait beaucoup, je crois. J'ai fait beaucoup. J'ai créé beaucoup de postes de travail pour beaucoup de gens aux pays pauvres. Je le savais. J'ai lutté pour augmenter le niveau de vie de beaucoup de gens en Afrique. Et je suis très heureux que j'ai fait ça. Et très orgueilleux. Naturellement, on peut faire plus, mais je suis très content que j'ai contribué à la lutte contre la pauvreté. Il y avait des mines à l'Afrique. Et je vis de gens qui ont des travails grâce à la Banque mondiale. Je suis très heureux.
Ça va, ben, nous aussi, merci. Bon, après avoir eu les deux sons de cloche, d'une part Toussaint et de l'autre Dodero, regardons ce que nous ont servi les professionnels de l'objectivité, j'ai nommé les journalistes. Cette semaine, je l'avoue, mon champ de vision a été fort étroit puisqu'il s'est limité au Soir et à La Libre Belgique. On essayera de faire mieux les prochaines fois. Déjà, le Soir commençait en force le lundi 25 septembre. Il y avait un article intitulé « Lutte active du FMI contre la pauvreté ». Formidable, le Soir est donc allé constater sur le terrain combien le FMI lutte activement contre la pauvreté. Enfin, c'est ce que laisse entendre le titre, mais c'est évidemment trop beau pour être vrai. En fait, ce merveilleux quotidien s'est apparemment contenté d'interroger un conseiller du FMI qui affirme évidemment, la main sur le cœur, que le FMI fait tout pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Pour préserver l'objectivité, ou plutôt un certain équilibre, le journaliste larde les citations du conseiller de quelques échos d'organisations contestataires. Oui, mais le CADTM dit ceci, Jubilé 2000, une autre organisation qui manifestait à Prague, dit cela. Chaque fois, une petite citation de l'expert réfute opportunément les critiques. La conclusion se trouve donc dans le titre de l'article « Le FMI lutte activement contre la pauvreté ». Dans La Libre Belgique, même topo, mais pour la Banque mondiale cette fois, La Libre cite une dépêche de l'AFP dans laquelle une légume de la banque admet que le développement n'est pas uniquement une question de gros sous, mais aussi de qualité de vie. Suit une citation rigolote et surtout révélatrice. « Il n'y en a là ni reniement ni volte-face », a assuré M. Stern, assurant qu'il s'agissait de l'aboutissement d'une réflexion engagée depuis 10 ou 15 ans. Fin de citation. Il a donc fallu 10 ou 15 ans à la Banque mondiale pour inventer l'eau tiède. Et comme dans le Soir, quelques belles paroles d'un expert financier suffisent à faire un beau titre, beau mais mensonger. Ici, c'est « La Banque mondiale fait son mea culpa ». La Libre et le Soir ne sont pas prêts de faire le leur. Jeudi dernier, le 29 septembre, le Soir publiait une interview de Didier Renders, qui a été très bon élève cette semaine. Il a vraiment payé de sa personne pour défendre ses chères institutions, mais là, dans le Soir, il a quelque peu dérapé. Premier dérapage à propos du caractère démocratique du FMI et de la Banque mondiale, Renders sort sa meilleure langue de bois pour dire, je cite, « Je reste intransigeant sur le fait que ces institutions sont de nature démocratique dans leur existence même. Elles résultent d'une décision politique. C'est à travers des mécanismes d'élection et de formation de gouvernement que l'on peut proposer une institution telle que le FMI ou l'ONU et que ces dernières, à leur tour, peuvent prendre des décisions. » Fin de citation. Si quelqu'un voit le rapport, qu'il lève le doigt. Heureusement, j'ai croisé à Prague Josy Dubié, ancien reporter RTBF et sénateur écolo, qui est autrement plus éclairant que Renders sur la même question. Josy Dubié, vous êtes sénateur écolo et donc représentant quand même d'un parti gouvernemental en Belgique. Vous êtes au contre-sommet à Prague et il y a notamment, par exemple, Didier Renders qui est au sommet officiel, qui est également un représentant d'un parti gouvernemental. Quelle est l'erreur ?
L'erreur, je pense, c'est qu'il faudrait être conscient que le Fonds monétaire international fonctionne selon des structures qui sont tout sauf démocratiques. Et qu'il est temps que l'on prenne conscience qu'il y a lieu de changer cela. Le Fonds monétaire international est une instance importante. Je crois qu'elle a son rôle à jouer dans la régulation des flux financiers internationaux. Mais il faut aussi prendre conscience qu'un pays, en l'occurrence, faut pas se le cacher, c'est les États-Unis, qui détiennent 17% des droits de vote au Fonds monétaire international, ont en fait un droit de veto. Parce que pour toute décision importante du Fonds monétaire international, les statuts prévoient qu'il faut 85% des votes. Comme les votes ne sont pas liés à une nation, comme aux Nations Unies par exemple, le Luxembourg et les États-Unis, même si c'est un peu absurde, ont chacun une voix, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, c'est lié à l'apport en argent des différents pays. Et donc les États-Unis avec leurs 17%, par rapport au fait, comme je l'ai expliqué, qu'il faut 85% des voix pour les décisions importantes, ont un droit de veto. Et c'est inacceptable parce qu'évidemment, dans des tas de situations, les États-Unis s'opposent à l'évolution du Fonds monétaire international, par exemple l'utilisation des réserves d'or du Fonds monétaire international, qui pourraient être converties pour pouvoir effectivement participer à l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc voilà toute une série de choses qui me semblent de nature à devoir être modifiées. Et c'est pour ça que moi je suis ici, pour le dire et pour essayer que ça bouge. Maintenant, je ne sais pas quelle est la position de M. Renders sur ce sujet-là. Je n'en sais rien, je n'ai pas discuté de ça avec lui.
Et la revendication exacte que vous soutenez ici, c'est quoi ?
La revendication exacte, c'est la démocratisation et la transparence du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, de les démocratiser, de faire en sorte que ce ne soit plus un seul pays qui décide tout, et de la transparence, c'est-à-dire que le conseil d'administration qui fonctionne aujourd'hui de manière totalement opaque, personne ne sait d'ailleurs comment les décisions y sont prises, le soit de manière claire, transparente, pour que l'on puisse éventuellement critiquer ceux qui ont pris des décisions qui ne nous conviennent pas. Mais on ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est la bouteille à encre. Personne ne sait comment les décisions sont prises et ce n'est pas acceptable.
Ben voilà, quand c'est Josy Dubié qui le dit, du coup, on comprend tout. On comprend très bien aussi la très mauvaise foi de Didier Reynders, toujours lui et toujours dans la même interview accordée au soir. Là, c'est le vrai dérapage. Voilà ce que dit notre ami libéral pour balayer d'un revers de la main toute la contestation menée par les ONG. Je cite « La plupart des ONG qui manifestent proviennent des pays développés. Elles se sentent autorisées à dire ce qu'il faudrait faire dans des pays en voie de développement. » Plus loin, il enfonce encore le clou en disant « La représentation des pays en voie de développement est un peu confisquée par les associations des pays développés. » Fin de citation. Bêtise pure ou culot monstre, pas facile à dire. En tout cas, je suis resté pantois devant ces déclarations. Ça fait des années que le FMI et la Banque mondiale se sentent parfaitement autorisés à dire ce qu'il faut faire dans le tiers-monde et qu'ils confisquent non pas la représentation, mais carrément la souveraineté des pays en voie de développement. Mais ça, Didier aime bien. Par contre, qu'une ONG se risque à dire timidement que ce n'est pas bien, et là, le sieur Reynders enfourche son canasson et part en guerre. Il n'y a pas que Reynders qui est dérapé dans ce cas précis. En tant que journaliste, quand on entend proférer une énormité pareille, on est tenu de réagir. L'interview est signée Bernard de Monti. Je suis donc allé trouver Bernard de Monti. Quand je lis ça, je me demande comment peut-on laisser dire des choses pareilles. Et comme je vous ai en face de moi, je vous demande comment peut-on laisser dire des choses pareilles.
Eh bien, écoutez, moi, je pense que bon, ce sont les propos d'un ministre. Donc, ce sont des propos en réponse à des questions que nous avons posées. C'est une opinion, donc il est évidemment de notre devoir de la laisser s'exprimer sans la censurer. Nous pouvons nous-mêmes nous dire qu'on peut ne pas être d'accord avec ça, et effectivement ces propos peuvent paraître de l'extérieur, et quand on appartient au milieu des ONG, ne pas susciter le parfait accord. Maintenant, il est évident que les ONG s'expriment également dans notre journal et peuvent, l'ont fait avant et peuvent le faire après, peuvent dire « je ne suis pas d'accord avec ce que M. Reynders a dit ». D'ailleurs, la veille de l'interview de M. Reynders, M. Toussaint s'est exprimé dans notre journal et a laissé clairement apparaître tout ce qu'il avait envie de laisser apparaître et disait, donner un peu son opinion par rapport à ce débat. Bon, M. Reynders a une autre perception des choses. Il estime, lui, que les responsables d'ONG qu'il a devant lui ne sont jamais que des pays du Nord. Il est évident qu'il est de notre devoir de laisser s'exprimer, comment dirais-je, M. Reynders sur ce plan, disons.
Mais est-ce que ce n'est pas justement votre rôle de journaliste de porter le débat au sein de l'interview et de mettre le ministre directement face à des contradictions qui sont quand même flagrantes?
Je n'estime pas que ces contradictions sont flagrantes, et il faut savoir qu'on lui a posé des questions, mais que libre à lui d'y répondre ou pas. De nouveau, ça, je pense que ça fait partie du débat démocratique. Il est évident que dans une interview n'apparaît que ce que le ministre a bien voulu nous dire. Il est clair que nous n'avons pas eu d'autres informations que celles-là, et que nous ne devons pas être des militants. Nous devons poser les questions que nous estimons que le grand public se pose, mais ne pas agresser ou du moins être excessif parce que nous appartenons à une idéologie ou à une autre. Donc moi j'estime qu'il faut rester aussi modéré, parfois même mettre ses opinions en poche quand on a en face de soi n'importe quel interlocuteur. Moi quand je suis journaliste et que j'interviewe quelqu'un, je ne l'interview pas avec mes opinions politiques, même si parfois ça fait mal, mais je l'interview comme si j'étais le grand public, qui est évidemment une institution difficile à maîtriser, mais j'estime qu'il ne faut pas poser les questions que pose tel mouvement ou tel autre. Il faut poser les questions qui nous semblent les plus raisonnables de poser.
Mais il faut se mettre à la place du grand public, mais avec une optique beaucoup plus informée. Justement, quand le grand public lit ça, il ne sait pas nécessairement que justement, il reproche aux ONG ce qui est précisément le principal défaut des institutions qu'il défend. Alors, c'est bien de se mettre à la place du grand public, mais il ne faut pas faire la bête non plus. Vous dites ne pas être militant, mais là, on a peur de sentir une certaine révérence d'un journaliste face à un ministre, non ?
J'estime qu'il n'est pas question de révérence, parce que je lui pose un moment la question de dire « mais donc pour vous ces institutions fonctionnent parfaitement ». J'estime que ce n'est pas une question révérencieuse, au contraire, moi je la trouve légèrement irrévérencieuse. Et donc, moi là je ne suis pas d'accord, et j'estime qu'il n'était pas de notre rôle d'aller plus loin. Mais de nouveau, moi j'en reviens à ce que je disais, si certains mouvements décident d'aller plus loin et se sentent choqués dans leurs convictions, eh bien, libre à elles de nous téléphoner, d'intervenir auprès de nous et aussi de répondre. Nous, au moment, je vous le dis clairement, où nous avons publié cette interview, nous nous sommes dit, tiens, peut-être que certaines ONG vont avoir à répliquer. Et justement, bon, moi, je trouve que c'est important qu'elles puissent le faire, mais qu'elles le fassent avec leur étiquette et qu'elles le fassent, comment dirais-je, avec leur conviction telle qu'affichée, puisqu'elles apparaîtront sous le nom ONG quelconque. Donc moi, je pense que c'est comme ça que le débat démocratique doit s'effectuer. Personnellement, j'invite une fois de plus les personnes qui ne seraient pas d'accord à dire voilà, je ne suis pas d'accord et pourquoi je ne suis pas d'accord, pour que le public, comme vous le dites, puisse avoir une opinion en ayant tous les intervenants de ce débat.
On le voit et on l'entend dans la bouche de Bernard de Monty. Pour le soir, le débat démocratique, c'est 5 minutes de temps de parole à gauche, 5 minutes à droite, et débrouillez-vous. Ça me rappelle un passage d'un petit bouquin qui date de 1973, mais qui est toujours parfaitement d'actualité. Ça s'appelle Radioscopie de la presse belge, et c'est signé René Campé, Marthe Dumont et Jean-Jacques Jespers. À propos du soir, on pouvait y lire: en général, le soir épouse les causes qui finissent par triompher. Il préfère les partis modérés, avec une prédilection pour les gouvernements d'union nationale. Bref, le soir est un journal frileux et mollasson, et ça fait donc au moins un quart de siècle que ça dure.
Thank you.
Là, juste avant le disque de Vénus, on a beaucoup parlé du soir, mais pourquoi s'acharner sur ce pauvre soir alors que tant d'autres nous fournissent toutes les occasions de nous énerver? Justement, j'en parlais avec Éric Toussaint. Souvenez-vous, c'était le type qui demandait l'annulation de la dette en début d'émission. Eh bien, Éric Toussaint a rencontré à Prague quelques envoyés spéciaux et lui aussi, il s'est un petit peu énervé.
J'ai été confronté à des journalistes qui maîtrisaient extrêmement mal le sujet et qui étaient envoyés par leur maison, la direction de leurs médias, sans être du tout armés pour couvrir l'événement, sans être du tout armés pour savoir interpréter l'événement de manière adéquate. Et donc, ce sont des personnes, je crois que ce n'est pas utile de citer les médias en question, ce sont des grands médias belges de service public ou des grands médias privés qu'on peut acheter tous les matins dans sa librairie habituelle ou écouter sur ondes moyennes et fréquences modulées à sa radio. Et c'est des gens qui donc représentent des médias importants et qui vont dès lors, comme ils ne sont pas préparés, saisir l'information au passage. Or, ils sont bombardés d'informations dans le centre de presse du centre de congrès. Et j'ai très peur que l'information qui dès lors soit véhiculée en Belgique ne soit pas la bonne. Il semble qu'hier, donc on est aujourd'hui dimanche 24, il semble qu'hier au JT RTBF, ce qu'on voyait, c'était des images d'Euronews dans un affrontement entre des skinheads et des jeunes anarchistes tchèques. Et voilà tout ce qu'on a montré de ce qui se passait ici à Prague, quoi. Conforter l'idée qu'il y a des affrontements permanents et que ça va aller crescendo jusque mardi. Et que les deux extrêmes se rejoignent, les ultranationalistes et ceux qui s'opposent d'un point de vue progressiste à la mondialisation, en fait, sont les revers, les deux revers d'une même médaille. Et donc, je crois que c'est un message extrêmement dangereux. Voilà, on a pu se rendre compte tout à l'heure que les personnes envoyées ici n'étaient pas du tout préparées à pouvoir de manière adéquate couvrir l'information.
C'est de l'ignorance et de l'incompétence, ou bien c'est d'après vous plutôt un désintérêt un peu malveillant par moment?
Ah, je pense que de la part des grands médias, il commence à y avoir véritablement un désintérêt pour ces grands événements. Il y a maintenant en Belgique peu de journaux qui envoient des envoyés spéciaux préparés, etc. Ils préfèrent rédiger dans leur salle de rédaction les commentaires se basant sur les comptes rendus des agences de presse comme AFP, Reuters, etc., quoi. Bon, alors on peut peut-être mettre de l'autre côté une initiative qui me paraît intéressante, c'est le fait que la télévision flamande, elle, a envoyé une équipe, un caméraman qui a suivi la délégation belge pendant 2 jours et demi et qui va retourner lundi à Bruxelles pour monter un terzak de 8 minutes, ce qui sera, je suppose, intéressant pour le public flamand.
Éric Toussaint parlait de radio de service public captable en FM et en ondes moyennes. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça me fait penser à l'RTBF. Justement, à propos de l'RTBF, j'ai rencontré son envoyé spécial à Prague, de retour de son voyage, qui était plutôt mouvementé. Il s'agit de Françoise Gillin, qui a eu la malchance de se faire embarquer par les flics sans raison apparente et de passer quelques heures dans un sympathique commissariat tchèque. Je vous propose tout de suite de l'écouter.
Comme je sortais du centre de congrès où je couvrais les discours et les travaux du FMI, j'ai voulu descendre dans la rue le fameux mardi, le jour où la contestation s'annonçait la plus forte. Et je me suis approchée d'un endroit où les manifestations s'échauffaient. J'ai voulu prendre l'ambiance sonore. J'étais derrière un barrage de policiers, mais je me suis approchée un peu trop près d'un endroit critique et je me suis sentie emmenée par deux policiers. Je croyais que ça allait s'arrêter là, que j'allais être refoulée vers le centre de congrès, mais pas du tout. On m'a tout de suite mis dans un panier à salade, comme on dit. Et donc, j'ai passé l'après-midi dans une cellule, un fourgon cellulaire, en attendant, je ne savais pas trop quoi, c'était en fait d'autres manifestants. Quand le panier à salade était rempli, on a été emmené au commissariat, mais à 10 km de Prague, toutes sirènes hurlantes. On a été soumis à une fouille corporelle avant d'être mis en cellule. Et seulement une bonne heure plus tard, dans mon cas, 4 heures plus tard, dans le cas d'un journaliste tchèque, on est entendu et libéré après avoir fait une déposition. Donc c'était une erreur, ils se sont excusés, mais c'était quand même un peu violent. Et là, il n'y a eu aucun respect du travail de la presse en tant que telle. J'ai eu beau montrer que j'avais un laissez-passer, que j'étais de la presse, que je faisais mon travail, ils n'ont rien voulu entendre. Je crois que la police de base était un petit peu débordée par les événements. Et donc là, ça montre qu'il y a encore du travail à faire pour que la démocratie soit une réalité dans ces pays-là.
Pour finir sur le fond, quelle est votre opinion personnelle sur, d'une part, le fonctionnement de la Banque mondiale et du FMI, et d'autre part, les revendications exprimées par les manifestants?
Une opinion personnelle, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on demande aux journalistes. Ce qu'on nous demande plus, c'est de comprendre et d'essayer de cerner les enjeux. Moi, je pense qu'il y a. La vérité est multiple et il y a des parts de vérité aussi bien chez les experts financiers du FMI qui prennent quand même leur temps d'analyser les situations, de décoder l'information et qui ont quand même des leviers de commande en main. Et je pense que dans la rue, dans la société civile, il y a des messages dont il faut tenir compte et des analyses aussi à prendre en compte. Il faudra du temps, je ne sais pas, c'est un peu la société idéale, on n'est jamais arrivé à la créer jusqu'ici. Heureusement qu'il y a des gens de bonne volonté pour essayer de le faire.
Comme quoi, il n'y a pas qu'au soir qu'on ménage la chèvre et le chou. Comme le disait également Éric Toussaint, la VRT, c'est-à-dire la RTBF flamande, enfin pas tout à fait, mais c'est censé être l'équivalent. Bref, la VRT donc avait envoyé une équipe télé sur place pour suivre la délégation belge des manifestants et voir ce qui s'y passait. Résultat, alors que la RTBF n'a montré que des images de violence, la VRT a pris le temps de donner la parole aux contestataires dans un long reportage et de parler abondamment d'Indy Media. Indy Media, c'est le centre des médias indépendants, une initiative née aux États-Unis au moment de la contestation du sommet de l'OMC de Seattle. Comme les médias dominants ne sont pas fichus d'expliquer ni les enjeux ni les événements dans ce genre d'occasion, ce sont de simples citoyens qui se sont réunis pour raconter les choses comme elles se passent. Indy Media s'exprime, modernité alternative oblige, via Internet, et on trouve sur le site aussi bien des sons que de la vidéo, des photos, des réflexions et des récits écrits. Depuis Seattle, de très nombreux centres Indy Media ont fleuri à travers le monde et notamment à Bruxelles. Le sommet de Prague était le premier événement où les collaborateurs d'Indy Media du monde entier s'étaient donné rendez-vous pour couvrir l'événement en masse avec un succès appréciable. J'ai demandé à Hans Soet, l'un des fondateurs d'Indy Media Belgique, comment était né le centre belge et quelles sont les perspectives qu'offre l'initiative.
En fait, c'est né pendant les actions de l'UNICE. Donc, il y avait la rencontre European Business Summit. Et donc on s'est mis ensemble avec quelques gens et on voulait faire quelque chose comme il y a eu à Seattle, donc raconter l'histoire de ceux qui allaient être dans la rue, pourquoi ils allaient descendre dans la rue. Et donc c'est un peu comme ça que c'est né Indy Media Belgique.
Pour le contre-sommet de Prague maintenant, ou en tout cas une bonne partie des Indy Media du monde entier se sont rassemblés pour créer une information alternative. Quel est le bilan? Comment ça s'est passé?
Je pense que ça a marché comme jamais avant. Donc, il y a eu hier entre 700 et 800 contributions au site, donc le jour même des actions. Donc quelque chose bon, qu'on n'a jamais fait avec Indy Media. Donc ça veut dire que les jours qui vont venir, il y a encore plein de choses qui doivent s'y mettre. On a aussi pu travailler ensemble avec des gens un peu partout du monde. Donc ça veut dire surtout des États-Unis et de l'Europe. Donc on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est discuté comment ça marche chez vous. Et donc je pense que chacun de nous rentre avec plein d'idées à la maison pour comment s'y prendre dans notre propre pays.
Est-ce qu'une des médias peut devenir une source parmi d'autres pour les médias traditionnels également?
Elle l'est déjà, hein. Donc il y a plein de journalistes qui nous téléphonent pour avoir des nouvelles accurates sur les faits. Donc, même les médias belges, en Belgique, il y a la BRT, la radio, la télévision, la VTM, le Standard de Morgan, ils m'ont tous téléphoné pour demander qu'est-ce qui se passe, où on va être, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc on est déjà une source d'information reconnue en fait par les médias traditionnels. Et donc c'était un des buts d'avoir aussi une influence sur les médias. Donc un des buts c'est construire son propre média, mais par le fait que tu existes, ils ne peuvent plus nier cette information, donc ils doivent parler de cette autre information aussi.
Donc IMC devient presque une agence de presse.
Une agence de presse, non. On veut pas passer à travers les autres médias, on veut avoir nos propres médias, mais parce qu'on le fait, on devient une source d'information.
Vous trouverez l'adresse du site Indemedia sur le site d'Alter Echo, dont je vous rappelle l'adresse, www.multimania.com/alter-echo en un mot. Une fois de plus, on notera que ce ne sont que les médias flamands qui s'intéressent aux infos d'Indemedia. Nous aurons très souvent l'occasion dans cette émission de revenir sur les étranges différences entre médias flamands et francophones en Belgique. Et voilà, le premier numéro d'Alter Echo se termine. Vous remarquerez que j'ai parfaitement réussi à éviter le sujet phare de ces jours-ci, les élections communales. D'une manière générale, d'ailleurs, nous tenterons de n'aborder ici que les sujets qui en valent la peine. Donc, tout va bien pour l'instant. Voilà le temps de vous rappeler que cette émission est diffusée tous les mercredis à 22h et rediffusée tous les vendredis à 14h sur Radio Campus, qu'on peut l'écouter en reel audio à partir du site internet dont revoici l'adresse www.multimania.com/alterecho en un mot. Et de remercier Pete d'avoir assuré la technique, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, merci et à la semaine prochaine.